journée à l'écoute de VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, accusée notamment de crimes contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011, a été levé hier soir selon une décision de la CPI rendue publique jeudi soir. Au Niger, plusieurs fonctionnaires ont été écroués mercredi soir pour leur implication présumée dans une affaire de détournement de 8 milliards de francs CFA du Trésor public, a appris hier l'AFP de sources judiciaires. Ni le nombre ni l'identité des prévenus n'ont été précisés. Au Mali, arrestation hier d'un ancien chef des services de renseignement en rapport avec la disparition d'un journaliste en 2016. Michel Joseph nous donnera les détails. Au Burkina Faso, élection du magistrat Élisée Ouédraogo à la tête de la CENI. Nous y reviendrons plus en détail avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré. Au Tchad, les autorités de la transition ont annoncé hier, dans un communiqué, un dialogue national inclusif en novembre et décembre en vue de l'organisation d'un référendum constitutionnel et des élections générales libres et transparentes, sans autre précision. Cette annonce fait suite aux manifestations d'hier à N'Djamena, à l'appel des associations de la société civile et du parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra contre la junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno. 6 militaires français étaient retenus hier à l'aéroport de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, où ils avaient posé leur hélicoptère la veille pour se ravitailler en carburant, selon l'armée française et les autorités équato-guinéennes. Mercredi, la justice française a condamné définitivement, dans un volet de l'affaire des biens mal acquis, le vice-président Théodorin Obiang, fils du président Teodoro Obiang Gbagbo, au pouvoir depuis 42 ans. La dernière flambée limitée de COVID-19 en Chine s'étend désormais à plusieurs provinces, y compris à Pékin, ont annoncé hier les autorités confrontées à la propagation de la souche Delta. La majorité des personnes contaminées avaient déjà été vaccinées, selon les autorités du Jiangsu, soulevant des inquiétudes quant à l'efficacité des vaccins chinois contre ce variant. Le variant Delta du coronavirus suscite une hausse des contaminations dans une quinzaine de pays du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie qui font face à une quatrième vague avec une population majoritairement non vaccinée, s'est alarmé ce jeudi l'OMS. L'Arabie Saoudite va rouvrir ses frontières aux touristes étrangers vaccinés après une fermeture de 17 mois due à la pandémie, a indiqué l'agence de presse nationale, mais pas d'annonce sur la levée des restrictions sur le pèlerinage de l'Oumra. Israël appelle ses citoyens âgés de plus de 60 ans à recevoir une troisième dose de vaccin, a annoncé hier le premier ministre Naftali Bennett. Ici aux États-Unis, les employés fédéraux devront être soit vaccinés, soit masqués et testés. Eric Manirakidza fera le point. L'ex-cardinal américain Theodore McCarrick a été inculpé d'agression sexuelle sur un adolescent, selon des documents juridiques consultés jeudi, devenant le plus haut responsable catholique à être poursuivi au pénal aux États-Unis pour des actes relatifs à l'immense scandale de violence sexuelle dans l'Église. Après un voyage de 8 jours dans l'espace et avec quasiment 15 ans de retard sur les plans initiaux, le nouveau module scientifique russe Nauka s'est amarré ce jeudi à la Station spatiale internationale, non sans avoir rencontré un problème provisoire de propulseur. Jonathan Kuminga, un ailier de 18 ans originaire de la République démocratique du Congo et arrivé aux États-Unis à 13 ans, a été sélectionné hier numéro 7 par les Golden State Warriors lors du draft de la NBA. Le numéro 1 pour Detroit Pistons a été Cade Cunningham d'Oklahoma State University. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC.
La suite de nos informations. Au Mali, un ancien chef des services de renseignement a été arrêté hier dans l'enquête sur la disparition d'un journaliste en 2016, enquête dans laquelle Karim Keïta, fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le point avec Michel Joseph.
Le général Moussa Diawara est détenu au camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Il est inculpé de complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture, selon une source judiciaire qui a requis l'anonymat. L'enquête porte sur la disparition du journaliste Birama Touré qui travaillait pour l'hebdomadaire Le Sphinx. Il est porté disparu depuis le 19 janvier 2016. Le général Diawara a été à la tête de la Direction générale de la sécurité d'État pendant 7 ans sous le régime Ibeka. Il est connu au Mali pour avoir été proche de Karim Keïta, ancien député, ancien président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale et fils de l'ancien président Ibeka. Il a trouvé refuge en Côte d'Ivoire après le coup d'État qui a renversé son père le 18 août 2020. Le directeur du Sphinx, Adama Dramé, a affirmé que Birama Touré faisait une enquête sur un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président à l'époque, Karim Keïta, qui a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter. Il s'est jusqu'à présent refusé à venir s'expliquer devant la justice malienne et un juge d'instruction de Bamako a émis début juillet un mandat d'arrêt international contre lui.
Samantha Pao, directrice de l'USAID, l'Agence américaine d'aide internationale, se rendra en Éthiopie pour réclamer un accès pour l'aide humanitaire dans la région du Tigré, en proie à la guerre et menacée par la famine. Le point avec Rosine Munezero.
Samantha Power va rencontrer des responsables éthiopiens à Addis Abeba pour réclamer un accès humanitaire sans entrave au Tigré et répondre aux besoins urgents dans d'autres régions de l'Éthiopie affectées par le conflit, selon un communiqué de l'USAID. L'ONU a prévenu mercredi que les rations provenant du dernier convoi humanitaire ne permettent de tenir que jusqu'aujourd'hui, vendredi. Un convoi du Programme alimentaire mondial a été attaqué le 18 juillet sur l'unique route permettant encore la livraison d'aide humanitaire au Tigré, passant par Semera, capitale de la région voisine de l'Afar. Près de 150 camions de nourriture et d'autres fournitures sont bloqués à Semera dans l'attente d'autorisation de sécurité, tandis que 44 autres sont partis mardi en direction du Tigré, a précisé l'ONU. Selon l'USAID, la tournée de Samantha Power débute samedi au Soudan. Une marque de soutien au gouvernement civil de transition après des décennies de règne autoritaire, d'Omar El-Béchir.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a pris une série de mesures pour doper la vaccination, parmi lesquelles l'obligation pour des millions d'employés fédéraux, soit d'être vaccinés, soit de se plier à une série de contraintes. Le point avec Eric Manirakiza.
Les employés fédéraux non vaccinés doivent porter le masque même dans les zones où la circulation du COVID-19 est faible. Ils doivent également se soumettre à des tests réguliers, une ou deux fois par semaine. Ils seront aussi limités dans leurs déplacements, selon un communiqué de la Maison-Blanche diffusé peu avant une allocution du président américain. Il s'agit d'un changement de cap et d'autant pour l'administration Biden, qui jusqu'ici se refusait à associer toute idée de contrainte à la vaccination, insistant davantage sur la responsabilité individuelle. Le président américain demande aussi à l'armée de réfléchir à comment et quand ajouter le vaccin contre le COVID-19 à la liste des vaccins obligatoires pour les militaires. Par ailleurs, il appelle les autorités locales à verser $100 à toute personne se faisant vacciner en puisant dans les fonds d'urgence pour faire face à la pandémie.
Et maintenant les sports, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous, l'Afrique a de fortes chances de décrocher des médailles ce jeudi avec la finale directe de l'épreuve du 10 000 mètres l'une des disciplines favorites des Africains, zoome justement sur les athlètes qui portent les espoirs africains dans cette épreuve avec Bagassi Koura.
Oui, chez les hommes, le grand favori de ces 10 000 mètres, c'est l'Ougandais Joshua Cheptegei, actuel détenteur du record du monde du 5 000 mètres et du 10 000 mètres, 26 minutes 11 secondes. Il est aussi le champion mondial en titre du 10 000 mètres, lui qui a enlevé l'or à Doha en 2019. Il a comme concurrent direct son compatriote Jacob Kiplimo, deuxième du championnat du monde junior en 2018 dans le 10 000 mètres, à l'occasion donc de s'imposer chez les seniors. Il a aussi été médaillé de bronze du 10 000 mètres lors des championnats du monde junior en 2016. Joshua devra aussi se méfier de l'Éthiopien Yomif Keshelcha. L'Éthiopien fait ses débuts au JO à Tokyo, mais il connaît les grands rendez-vous après l'argent arraché dans le 10 000 mètres lors des mondiaux d'athlétisme 2019 à Doha, justement derrière Joshua. Le Kenyan Geoffrey Kamworor n'est pas en reste. Il voudra bouleverser la hiérarchie dans l'épreuve. Lui qui est un peu monté en puissance dans le 10 000 mètres, se classant 11e au JO de Rio en 2016 et 6e lors des championnats du monde en 2017 à Londres. Chez les dames, l'Afrique a les yeux rivés sur la détentrice du record du monde du 10 000 mètres, la Kenyane Letezembet Gidey, avec ses 29 minutes 1 seconde l'année dernière. Elle s'est classée 2e lors des mondiaux en 2019. La Burundaise Francine Nyonzaba, qualifiée sur 5 000 mètres dames et 10 000 mètres, a aussi des choses à montrer. Elle qui a été écartée de 800 mètres, son épreuve de prédilection à cause de son taux élevé de testostérone.
Merci Bagassi. Vous le savez, depuis les JO de Rio en 2016, les athlètes réfugiés concourent sous la bannière de l'équipe des réfugiés admise par le Comité international olympique. Pour ces JO de Tokyo, cette équipe regroupe 29 athlètes et parmi eux, l'haltérophile camerounais Cyril Tchatchedeux, réfugié à Londres en Angleterre, avant son départ pour Tokyo où il va concourir dans la catégorie des 96 kilos le 31 juillet. Cyril explique comment le sport a changé sa vie. Nani Talani raconte.
Cyril Tchatchedeux se prépare à entrer dans l'histoire aux Jeux olympiques de Tokyo, 7 ans après s'être retrouvé sans abri et sans argent au Royaume-Uni. En juin, l'haltérophile camerounais a été officiellement sélectionné dans l'équipe des réfugiés du Comité international olympique, faisant de lui le premier athlète olympique réfugié basé au Royaume-Uni. Cyril Tchatchedeux, haltérophile et membre de l'équipe des réfugiés.
J'ai l'impression que cela m'a un peu ramené à la vie parce que ça fait 7 ans que je n'ai pas participé à une compétition internationale.
L'athlète né à Yaoundé a représenté le Cameroun aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow avant d'apprendre qu'il n'était pas prudent pour lui de rentrer chez lui pour des raisons qu'il préfère ne pas révéler. Il a fui la base de l'équipe et s'est retrouvé sans abri pendant 2 mois à Brighton, une ville du sud de l'Angleterre. Tchatchedeux a trouvé du réconfort dans le sport et a pris d'assaut l'haltérophilie britannique, remportant 5 titres anglais, 3 titres britanniques et 5 records nationaux. Il a désormais hâte de faire valoir son talent à Tokyo au nom de tous les réfugiés du monde, dit-il.
Je suis très heureux et j'ai vraiment hâte de retrouver la scène internationale, pas seulement pour me représenter moi-même, mais aussi pour représenter environ 80 millions de personnes déplacées dans le monde. Représenter les réfugiés et les personnes défavorisées sera une grande responsabilité.
Une responsabilité que supportent pour le moment les épaules de Cyril Tchatchedeux, qui entre en compétition le 31 juillet dans la catégorie des 96 kilos.
Merci Nanit. La journée d'hier a été sans pour les Africains. Le Kenya, seul représentant en lice dans le rugby à 7 dames, a doublement perdu face au Comité olympique russe 35-12 et face à la Nouvelle-Zélande 29-7. Les Kenyans affronteront la Grande-Bretagne ce vendredi, elle qui reste dernière du groupe A. C'est ici que se referme cette fenêtre consacrée aux Jeux olympiques.
Merci Yakuba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le bureau de la commission électorale a été finalement mis en place ce jeudi après plusieurs semaines de tractations et de crises. Le président sortant, qui voulait briller en second mandat, a été désavoué par la communauté musulmane qu'il représentait. Le candidat de la communauté coutumière a été, lui, rejeté par l'opposition. Et finalement, le président burkinabé a dû intervenir ce jeudi pour débloquer le processus. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Après la prestation du serment intervenu plus tôt jeudi devant les juges du Conseil constitutionnel, les nouveaux commissaires de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, 15 au total, se sont retrouvés en début de soirée pour l'élection du bureau permanent. Élisée Ouédraogo a récolté 13 voix sur 15 contre 2 pour son adversaire et a été élu président de la CENI pour un mandat de 5 ans. Magistrat de profession, le nouveau président de la CENI est le représentant de la communauté catholique. Il appelle à l'union pour élever les défis. Le nouveau président de la CENI.
L'un des premiers défis auxquels nous avons à faire, c'est de pouvoir nous organiser et de nous atteler à pouvoir être à la hauteur.
Avant ces dénouements, il faut compter plusieurs semaines de crise. D'abord, la communauté musulmane qui a choisi son représentant, Newton Barry, le président sortant, avant de se raviser et de choisir un autre. Ensuite, le candidat de la chefferie coutumière, le Sahou Naba, qui a battu campagne pour la réélection du président Kabore en novembre dernier, a lui été contesté par l'opposition qui a boycotté à deux reprises l'élection du bureau de la CENI. Le président Kabore a dû intervenir et l'a fait savoir tôt jeudi.
J'ai demandé à Sa Majesté de bien vouloir accepter que le représentant de la chefferie coutumière ne soit pas candidat pour la présidence de la CENI. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des commissaires devront prêter serment. J'ai demandé donc à tous de faire cet effort pour que nous puissions aujourd'hui procéder à la prestation des serments de tous les membres afin que cet après-midi puisse se dérouler l'élection du nouveau président de la CENI qui sera choisi parmi les autres composantes de la société civile.
Pour les observateurs, l'institution a besoin des réformes pour éviter d'éventuelles crises à l'avenir. Pasien, analyste politique.
À ce jour, on peut dire que c'est un dénouement et en même temps, c'est le moment d'en tirer les leçons parce que cette crise nous permet de comprendre que la CENI connaît beaucoup de manquements, donc il va falloir nécessairement restructurer. Cette CENI a déjà commencé par les représentants de la société civile qui sont en nombre restreint. Il faut d'abord refonder totalement et profondément cette CENI pour éviter de telles crises à l'avenir.
En plus de Élisée Ouédraogo comme président de la commission électorale, Yamba Malik Sawadogo de la majorité et Aboubakar Sawadogo de l'opposition ont été élus vice-présidents de la commission électorale. La CENI est composée de 15 commissaires, dont 5 des partis politiques de la majorité, 5 de l'opposition et 5 des organisations de la société civile. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Guinée, les jeunes commencent à s'habituer au coworking, des espaces réservés aux porteurs d'idées. Des hubs proposant des activités d'incubation de start-up à succès. Reportage de notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Jatropha, l'une des plateformes de la capitale, qui donne l'opportunité aux jeunes Guinéens de développer leur potentiel entrepreneurial. Cet espace de coworking offre aussi une salle de formation, des bureaux et des laboratoires que gère Mamadou Siribari.
Là, on met des imprimantes 3D à la disposition de tous nos entrepreneurs. Donc, ça nous permet de faire les coques de tous les appareils qu'on veut créer. Même une coque de téléphone, comme ça, de cette forme, on peut la redessiner, la remodéliser et l'imprimer. Tout ce qui vous passe par la tête, ça, c'est un début d'impression. C'est à plat. C'est le fond, par exemple, d'une coque qui est en train d'être imprimée. Donc, après, c'est un assemblage et de la colle qui s'opère.
Une centaine de jeunes ont été coachés par cet incubateur. Mariamba est directrice de Yalan, une entreprise qui évolue dans la réparation des smartphones. Mais face à la pandémie de Covid-19, elle a dû se réorienter vers la confection des masques.
À la base, c'est une entreprise d'appareils électroniques, mais pendant la pandémie, vu qu'on ne voulait pas rester comme ça, on s'est réinventé en faisant des masques qui nous a permis aujourd'hui d'avoir plusieurs contrats avec les institutions.
Jatropha Hub était une communauté d'entreprises qui avait les mêmes objectifs, évoluant dans les mêmes filières, notamment l'agriculture. Aujourd'hui, l'incubateur accompagne des jeunes entrepreneurs dans la formation et le coaching. Mamadou Siri Bari, encadreur.
Notre dogme ici, c'est quoi? C'est que c'est seulement l'entrepreneur connaît l'ampleur de son idée. Seulement lui croit à son idée. Nous, nous l'aidons à croire à son idée. Nous l'aidons à commercialiser ou à échanger son idée avec quelque chose d'autre dont il a besoin, que ce soit de l'argent ou un service.
Les jeunes porteurs d'idées apprennent la stratégie marketing et le business model. L'incubateur Jatropha les accompagne pour trouver des financements de leurs projets. Mohamed Lamine Magasouba, manager général.
Nous avons 10 employés directs, une quinzaine indirectement. Voyez, tout dépend des programmes. Donc, les indirects, c'est des consultants que nous engageons pour accompagner un peu nos entrepreneurs. Il y a des formations spécifiques pour chacun. D'autres peuvent avoir un besoin d'être formés en marketing.
Avec une capacité d'accueil de 150 personnes, Jatropha offre un hébergement en plus des services d'incubation et de formation. L'incubateur est affilié à plusieurs réseaux nationaux et internationaux. Il se veut un catalyseur de la technologie Made in Guinée. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
En République démocratique du Congo, le nombre des cas de contamination a franchi le cap des 49 250, un record en Afrique centrale. Trois provinces sont sérieusement touchées, le Nord Kivu, l'Ituri et le Haut Uele. Dans la ville de Goma, des échantillons confirment la circulation du variant SARS-CoV-2. Actuellement, la vaccination contre le COVID-19 est suspendue, les doses d'AstraZeneca étant périmées. Le gouvernement devrait recevoir plusieurs doses à la mi-août. Le Congo-Brazza a fermé ses frontières aux ressortissants de Kinshasa et la France a placé la RDC dans la zone rouge. Reportage de Patrick Loupika.
L'inquiétude est grande dans un pays frappé par la troisième vague. Plusieurs doses d'AstraZeneca ont connu leur date de péremption sur toute l'étendue du territoire national. Dans la province du Nord Kivu, par exemple, l'on signale les foyers de contamination. La vaccination a été suspendue depuis le 11 juillet 2021. Les cas positifs à la COVID-19 augmentent d'une façon vertigineuse. Le coordonnateur du secrétariat technique national de la riposte contre la COVID-19 en RDC, Dr Muyembe Tanfoum, a attend toujours l'acquisition de nouvelles doses.
Nous attendons le lot de vaccins que le président avait promis, des différents types de vaccins qui vont venir, et c'est avec ça que nous allons donc commencer la deuxième phase, n'est-ce pas, de la vaccination. Le vaccin est périmé. Vers la fin, donc, avant la péremption, il y a eu plutôt un engouement. Les gens ont commencé à comprendre l'importance de la vaccination et les risques que l'on courait. Et donc cet engouement a fait que les peu de doses qu'on avait, c'était déjà fini et puis c'est tombé en péremption.
Certaines institutions hospitalières sont en rupture d'oxygène, ce qui aggrave déjà la situation. La semaine dernière, il n'y avait pas d'oxygène dans la capitale Kinshasa. Un gros souci car plusieurs malades sont sous oxygène aux cliniques universitaires qui prennent en charge les cas sévères, critiques et modérés. Sur un total de 30 malades aux urgences, 25 sont sous assistance respiratoire. Pour le docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, le premier lot d'AstraZeneca a été très efficace en RDC, un vaccin qui présente les avantages sur le plan épidémiologique.
Ici, chez nous, ou des personnalités qui ont reçu AstraZeneca. En tout cas, moi, tous ceux qui ont pris la vaccination AstraZeneca, ils sont bien portants. Ils devons prendre les choses au sérieux. Il ne faut pas que nous ici, nous soyons la source de contamination des autres pays. On va nous indexer et ça va nous coûter cher. Il n'y a pas d'autre solution que la vaccination va nous libérer beaucoup. La vaccination nous apporte beaucoup de gains. Le nombre de personnes hospitalisées va diminuer, le nombre de malades va diminuer.
Le bilan est de 78 000 personnes vaccinées depuis le début de la vaccination en République démocratique du Congo, lancée le 19 avril 2021. Kinshasa, Patrick Lupika, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
En Afrique du Sud, des cuisiniers retroussent leurs manches depuis un an pour aider les familles pauvres qui souffrent de la faim à cause du Covid et plus récemment à cause des pillages de magasins début juillet. Les restaurateurs ont souvent dû fermer du jour au lendemain pendant les périodes de confinement. Ils ont utilisé leur stock pour nourrir quelques 150 000 Sud-Africains qui ont reçu des repas chauds l'an dernier. Reportage de Valérie Hirsch, notre correspondante à Johannesburg.
Quatre cuisiniers travaillent bénévolement dans le restaurant indien Tava à Johannesburg. Philippe Friedman, un chef belge, les a mobilisés pour aider les familles pauvres affectées par les confinements depuis avril 2020.
On a commencé donc le 6 avril avec 350 repas et monté à 2200 repas par jour. Petit à petit, on a réussi à convaincre d'autres chefs à nous rejoindre, à peu près 30 ou 35 cuisines. Et puis les gens à la maison ont commencé à cuisiner aussi.
Plus de 30 cuisines bénévoles dans tout le pays ont préparé des repas chauds pour 150 000 enfants et adultes. Pendant le confinement, en avril et mai 2020, certaines ont continué, même après la réouverture des restaurants. Dans le restaurant Tava, 400 repas sont préparés chaque jour pour être distribués dans des townships.
Entre 50 et 70 litres de la casserole. Donc, dans les deux premières casseroles, c'est de la bouillie de maïs. What are we doing, chef, today?
Chicken. Ça sent très bon.
Oui, on fait une casserole avec du poulet et des légumes, avec un petit ton indien.
Certains des ingrédients sont donnés par des grossistes ou des particuliers, mais l'essentiel est acheté par Matthew Abraham, le patron du restaurant Tava. Il a néanmoins investi plus de 150 000 euros dans l'opération.
Though it is very stressful times,
même si c'est très difficile en ce moment, on arrive à un âge où on sent qu'on doit aider la communauté.
Le patron de Tava a lui-même envoyé un camion de 6 tonnes de nourriture suite au pillage des magasins du KwaZulu-Natal. Les repas sont prêts, ils sont versés dans des grands seaux. Anna Maria Lecky de la fondation Risky vient les chercher pour les amener dans le township d'Alexandra où ils sont distribués aux enfants par une association locale.
So we're busy dishing up food for the children.
On est en train de servir à manger aux enfants. Ils font la file, ils observent la distance sociale et on les désinfecte. C'est souvent leur seul repas de la journée. Beaucoup de familles ont perdu des emplois et des proches à cause du Covid. Suite au pillage, elles sont encore dans une situation plus difficile.
En 2002, 20% des Sud-Africains souffraient de la faim, un chiffre ramené à 11% en 2019 selon une enquête nationale auprès des ménages. Mais suite à la pandémie de Covid, le pourcentage repartit à la hausse, repassant à 15% cette année. Un quart des enfants sud-africains souffrent de retard de croissance. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Remind me you got it.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute.